cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour ce troisième volet de nos cours d'histoire consacrés au Proche-Orient. Catherine Saliou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être revenue au micro de Storia Voce. Vous êtes professeure d'histoire romaine à l'Université Paris 8 Vincennes, directrice d'études à l'École pratique des hautes études, et vous venez de publier dans la collection dirigée par Joël Cornette, la collection Mondes Anciens, vous venez de publier le Proche-Orient de Pompée à Muhammad, 1er siècle avant Jésus-Christ, 7e siècle après Jésus-Christ, un ouvrage paru chez Belin. Alors nous avons défini ce qu'était le Proche-Orient dans un premier cours d'histoire, il y a deux semaines de cela. La semaine dernière, nous avons vu l'économie et l'administration de la province romaine. Je souhaiterais terminer par la culture et les sociétés, ou les cultures et les sociétés. Quelle est la place, tout d'abord, de l'hellénisme dans la région, Catherine Saliou?
Alors, elle est à la fois très importante et en même temps, bien sûr, à nuancer, mais elle est très importante. Alors, vous regrettiez la semaine dernière de ne pas avoir parlé suffisamment d'Antioche, donc on pourrait parler très facilement pendant 20 minutes de l'hellénisme à Antioche. Ça pose aucun, problème, mais bon.
Peut-être pour une autre émission.
Oui, d'accord. Mais alors, l'hellénisme est introduit il y a, bien dès avant la conquête d'Alexandre, un phénomène d'auto-hellénisation, si on peut dire, de la part des antiques cités dites phéniciennes de la côte, actuellement ça correspond au Liban, si vous voulez, où dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, il y a, disons, une volonté de s'intégrer au vaste ensemble culturel hellénique ou grec. Mais cela dit, dans l'ensemble de la région, l'hellénisme est une introduction liée directement à la conquête d'Alexandre et à la mise en place du royaume séleucide. La langue de l'administration, la langue du pouvoir séleucide, c'est le grec. Et donc, si l'on veut communiquer avec le pouvoir, il faut pouvoir le faire en grec. Et si l'on veut comprendre ce que dit le pouvoir, il faut le faire en grec. Par ailleurs, les séleucides ont une politique de colonisation, enfin ils font des villes, des cités, et ils ont une cour, et donc ils ont besoin d'avoir dans leur cour, à leur côté, des lettrés, des gens savants, etc. Ils ont une bibliothèque, etc. Donc, si vous voulez, la culture grecque commence à se diffuser au Proche-Orient, par le haut, si on peut dire, donc dès l'époque hellénistique. Lorsque, donc, au moment de l'implantation du pouvoir romain, eh bien, l'Empire romain est un empire officiellement bilingue, c'est-à-dire que dans toute la partie orientale de l'Empire, pas seulement au Proche-Orient, mais vraiment dans toute la partie, la Méditerranée orientale, si la langue, disons, du pouvoir romain en tant que pouvoir romain, et le latin, la langue de communication avec les administrés, c'est clairement le grec. Et il en est de même au Proche-Orient. Donc, si vous voulez, la langue de pouvoir, la langue d'administration reste le grec.
Tout le monde parle grec.
Non. La langue de la vie civique aussi.
La vie civique.
La langue de la vie civique. Donc, dans les cités, disons la langue officielle, c'est le grec. Ce qui est donc beaucoup de gens, si vous voulez, parlent le grec. Il y a également, donc, dans certaines cités, en tout cas, une activité culturelle très importante. Alors, à Antioche, bien sûr, une activité théâtrale, une activité artistique très importante, mais aussi, par exemple, dans une cité bien moins importante, qui est la cité de Gerasa, où on a des philosophes, des musicologues, etc. Enfin, vraiment une activité culturelle importante. Enfin, l'hellénisme est très important à Gerasa. Enfin, c'est le titre d'un article qui a été écrit par un collègue, l'hellénisme à Gerasa, effectivement. Et on pourrait citer d'autres exemples. Le Proche-Orient fournit à Athènes ses professeurs de rhétorique, qui viennent de Pétra, au deuxième, au troisième siècle après Jésus-Christ, qui viennent de Tyr, etc. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, beaucoup de gens parlent très très bien le grec au Proche-Orient. Mmh. Maintenant, la question, c'est que beaucoup de gens, en revanche, ne parlent pas le grec. Et beaucoup de gens sont bilingues, voire trilingues. Beaucoup de gens parlent éventuellement très bien leur langue araméenne et un petit peu le grec, etc. C'est en fait une véritable mosaïque de langues.
La première langue parlée, cela reste l'araméen ?
Alors oui, ou disons, et l'araméen sous différentes formes en fait.
Il y a des dialectes. Formes.
Voilà, exactement. Mmh. Alors là, c'est un peu compliqué. Donc pour essayer d'aller vite, je dirais qu'il y a une histoire politique de l'araméen qui devient ensuite une histoire culturelle et religieuse du syriaque. Voilà. Alors à partir de là, on peut essayer de détailler un tout petit peu. Donc l'araméen à l'époque perse achéménide, c'est la langue de l'administration. Donc on parle de l'araméen d'empire, c'est vraiment la langue qui dans l'ensemble de l'empire est utilisée dans l'administration. À partir de la conquête d'Alexandre, ce sera le grec, comme je l'ai dit. Et donc l'araméen écrit semble disparaître. Alors, sauf effectivement en Judée, où on continue à comprendre, à lire et éventuellement à écrire l'hébreu, et où on continue aussi à utiliser l'araméen. Mais sauf surtout au royaume de Nabatène, où visiblement le royaume de Nabatène continue à utiliser l'araméen et fait même d'une forme de l'araméen son écriture officielle, si vous voulez, c'est le nabatéen. Le royaume d'Édesse conserve aussi l'usage de l'araméen et, c'est plus étonnant, la cité de Palmyre choisit le bilinguisme officiel et les inscriptions officielles de la cité de Palmyre sont en principe bilingues, grecques, araméen, donc c'est une forme de araméen qu'on appelle le palmyrénien. Et ça, c'est une décision, voilà, qui a été prise par la communauté des palmyréniens, donc au 1er siècle après Jésus-Christ. Et alors, donc tout ça pour dire que c'est politique. Ensuite, à partir du 4e siècle après Jésus-Christ, l'araméen, donc Édesse, a été intégré à l'Empire romain au 3e siècle après Jésus-Christ. L'araméen a été remplacé, si on peut dire, comme langue politique dans l'administration par le grec, mais en revanche, l'araméen d'Édesse va évoluer et devenir le syriaque, une langue littéraire, et comme le syriaque, contrairement au grec, l'usage du syriaque n'est pas surchargé de connotations païennes. Je m'explique, vous êtes chrétien, très bien, et vous voulez écrire, vous êtes un intellectuel chrétien, vous voulez écrire. Alors si vous voulez écrire en grec, très très bien, il y a de très très grands écrivains, très grands orateurs grecs chrétiens, par exemple Jean Chrysostome, Théodoré, etc., parfait. Mais quand même, ça veut dire que vous devez commencer par apprendre par cœur tout Homère, par connaître bien votre mythologie, etc. Donc ça reste une langue liée au paganisme, si vous voulez. Ce qui n'est pas le cas du syriaque. Et donc, le syriaque, comme langue littéraire, va se diffuser comme un vecteur, si vous voulez, dans les milieux chrétiens. Voilà, comme un choix alternatif, si vous voulez, par rapport au grec.
Alors, on comprend bien qu'il y a une mosaïque de langues. Est-ce que c'est aussi une mosaïque de culture ? Est-ce que, au fond, le Proche-Orient se distingue par son cosmopolitisme ? Par rapport à d'autres régions de l'Empire romain.
Oui, certainement. En même temps, je me demande si le fond du problème, c'est pas que au Proche-Orient on dispose de sources très importantes et qu'on peut étudier les choses de façon beaucoup plus précise qu'ailleurs finalement.
Et pourquoi cela ? On a beaucoup plus de sources, on a beaucoup plus de textes, beaucoup plus de d'inscriptions.
Oui, ben notamment des textes en langue qui ne sont ni latin ni grec, si vous voulez, vous voyez. Mais enfin bon, cela dit, je ne vais pas m'engager dans cette province occidentale. Alors, une spécificité du Proche-Orient, c'est que là où, en Occident, ben, si vous voulez, quand vous arrivez à l'ouest de la Gaule, ben, vous avez l'océan Atlantique, enfin, il n'y a rien, si vous voulez. Hein. Alors que au Proche-Orient, quand vous arrivez à l'Euphrate, à la Mésopotamie, vous avez, le vaste continent eurasiatique, avec donc des, comme je vous dis, des États, des empires très organisés, très structurés, et donc des possibilités comme d'échanges effectivement extrêmement développées. Bon, ça c'est effectivement une spécificité réelle du Proche-Orient. Mmh. Ensuite, le cosmopolitisme, oui et non. Là, il faut pas non plus trop exagérer. Là, j'ai vu un peu par hasard là sur Arte récemment un documentaire sur Palmyre. J'ai été effarée puisque on montrait des marchands chinois à Palmyre. C'est pas du tout comme ça que ça marche, hein. C'est-à-dire que les caravanes fonctionnent par système de relais, hein. C'est quelque chose qui a été bien montré. Et donc, la soie arrive de Chine à Palmyre, ça on le sait, on a trouvé des fragments, etc. Elle est éventuellement retravaillée à Palmyre. Il y a une véritable économie globalisée de Palmyre, tout à fait. Mais sauf exception, c'est pas les marchands chinois qui arrivent à Palmyre, si vous voulez. Hein. La soie est transportée de d'autres chameaux, de caravane en caravane, et au terme de plusieurs relais, elle arrive à Palmyre. D'autant plus que, excusez-moi, à Palmyre, elle arrive aussi en grande partie, essentiellement même par voie maritime. Hein, donc il y a un certain nombre de transferts. Alors ce qui est vrai, c'est que certains palmyréniens sont allés jusqu'en Inde. Hein, ça c'est vrai, on a des inscriptions, on le sait. Il y avait peut-être des Indiens qui sont venus jusqu'à Palmyre, c'est possible. Mais bon, si vous voulez, c'est pas. Enfin voilà, il faut pas montrer de Chinois en train de vendre leur ou s'imaginer qu'il y ait des Chinois sur le marché de Palmyre.
Sur les marchés de Palmyre. Ouais. Alors venons-en aux faits religieux. Qu'apporte l'Empire au Proche-Orient? Il apporte le culte impérial, il apporte la tichée civique.
Alors, ça n'est pas vraiment l'Empire romain qui apporte la tiquée. Hein. Le culte de la tiquée, c'est extrêmement intéressant. La tiquée, c'est la fortune, hein. Donc le destin, si vous voulez, et si possible, l'heureuse fortune, le destin favorable. Alors, c'est une divinité, c'est un culte, le culte de la tiquée qui se développe à l'époque hellénistique en fait. Alors, la tiquée c'est compliqué parce que assez vite, la tiquée c'est une divinité féminine et on représente la fortune de la cité sous les traits de cette cité, en quelque sorte. Et finalement, la fortune, la tiquée, devient l'équivalent du logo de la cité. Dans certaines cités, on rend effectivement un culte à la tiquée. Bon, c'est le cas, par exemple, de Gaza, c'est le cas d'Antioche, etc. Mais dans d'autres cités, il n'est pas certain qu'on ait rendu un culte à la tiquée. Il est possible que la tiquée ait simplement été une image de la cité, en fait. En revanche, bon, le culte impérial, ça, c'est effectivement un apport, enfin, par définition, de l'Empire romain. Et le culte impérial joue un rôle très important au Proche-Orient, mais pas seulement, pour, l'unification de l'Empire romain, c'est évident.
Alors, on sait que le culte impérial arrive ou se développe un tant soit peu, mais à contrario, ou bien dans un sens inverse, l'Orient influence par ses rites orientaux Rome.
Oui et non. Et même plutôt non, en fait. Hein.
Mais le christianisme.
Ah oui, dans ce sens-là.
Le christianisme, le judaïsme sous Néron, Adrien, qui s'intéresse.
D'accord, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, parce que bon, il faut distinguer ce qu'on appelle à tort hein, les cultes orientaux. Donc, selon une théorie développée au début du XXe siècle par un très très grand savant, par ailleurs, hein, qui s'appelait Franz Cumont, qui a évoqué cette notion de religion orientale. Donc, un certain nombre de religions auraient été, de cultes auraient été importés d'Orient en Occident parce qu'ils auraient mieux convenu aux aspirations des populations, leur salut, etc. Mais ça, on est complètement revenu dessus et on s'est rendu compte que ce qu'on appelle les cultes orientaux, ce sont en fait des cultes fabriqués en Occident, si vous voulez. Enfin, que c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on croyait. Alors maintenant, vous parlez du judaïsme, du christianisme. Alors en fait, le judaïsme s'est diffusé en Méditerranée bien avant l'annexion, la création de la province romaine de Syrie et bien avant l'intégration du Proche-Orient à l'Empire romain. Là.
Il existe une diaspora. Voilà, il y a d'ailleurs plus de juifs en dehors de Judée qu'en Judée.
Oui, c'est exactement, c'est ce qu'on appelle la diaspora. Et la diaspora, c'est comment a commencé dès l'époque hellénistique. Alors cela dit, mais ça ne ne concerne pas que le Proche-Orient, ça concerne effectivement l'ensemble de l'Empire romain. Et c'est une spécificité du judaïsme antique par rapport au judaïsme contemporain, c'est que on a un prosélytisme véritable et donc les communautés juives se développent parce que des personnes, des gens se convertissent au judaïsme et cherchent à s'intégrer à ces communautés juives avec toute une série de gradations entre donc les prosélytes, les craignants Dieu, etc. Mais effectivement, le judaïsme est une forme religieuse, disons, très, enfin, comment dire, très dynamique dans l'Antiquité. En ce qui concerne le christianisme, alors effectivement, le christianisme apparaît par définition, si je puis dire, au Proche-Orient.
On parlait d'Antioche, voilà. le nom de chrétien apparaît pour la première fois à Antioche.
Exactement. Mais il faut quand même prendre conscience du fait que ce mot de chrétien, christianoi, donc il est attesté par des textes grecs, mais c'est un mot latin, hein, cette finale anus, c'est une finale latine. Donc, il faut supposer que ce sont des Romains, si vous voulez, hein, qui ont
qualifié,
qualifié les partisans du Christ, les sectateurs du Christ. Hein, c'est ça que ça veut dire. Voilà, les gens qui suivent le Christ de chrétiens.
En fait, donc ça pouvait être un peu péjoratif au fond.
Peut-être. Oui, certainement même.
Mmh. Donc la région se distingue par ce double fait qu'elle est le foyer du judaïsme et en même temps le berceau du christianisme.
Exactement. Mmh. Exactement, et voilà le berceau aussi de très nombreuses religions. C'est-à-dire que on a une vision un petit peu simplifiée, hein, mais le christianisme se distingue très progressivement du judaïsme. Et en fait, le judaïsme moderne, enfin, se forme par opposition au christianisme. C'est-à-dire que les deux, il y a un phénomène qu'on appelle the parting of the way, la séparation des chemins, hein, qui se fait durant l'Antiquité, et dont qui s'achève, on ne sait pas exactement quand il s'achève, hein. On considère parfois que c'est au deuxième siècle après Jésus-Christ, parfois beaucoup plus tard, jusqu'au troisième, quatrième siècle. Lorsque, justement, à Antioche, Jean Chrysostome, à la fin du quatrième siècle, explique à ses fidèles chrétiens qui sont venus l'écouter à la messe, à Synaxe, vous êtes juif, vous êtes tous juifs, vous fêtez le Shabbat, vous allez à la synagogue parce que vous pensez qu'il vaut mieux prêter serment sur la Torah plutôt que sur la Bible, c'est n'importe quoi, etc. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, Jean Chrysostome, savait très bien qu'il était chrétien et donc il n'était pas juif, mais enfin, visiblement, il y avait des gens, un dioche, auxquels il fallait encore expliquer ça, si vous voulez.
Eh bien, c'est sur cette idée, de séparation des chemins que nous allons nous quitter. Catherine Saliou, merci beaucoup d'être venue à trois reprises à ce micro pour évoquer le Proche-Orient, de Pompée à Muhammad, 1er siècle avant Jésus-Christ, 7e siècle après Jésus-Christ, paru chez Belin dans la collection Mondes anciens sous la direction de Joël Cornette. Il me reste à vous remercier, chers
Merci
auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir. Ces émissions ont pu être enregistrées grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous soutenir, n'hésitez pas. Rendez-vous pour cela dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil storiavoce.com. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de nos grands entretiens.